À travers tous les témoignages qui précèdent, on comprend mieux que les langues et cultures de l'Antiquité peuvent ouvrir sur d'autres temps, d'autres lieux, d'autres disciplines. Et si elles s'émancipaient de la salle de classe, de l'établissement scolaire, pour ouvrir les portes et les fenêtres de la connaissance en dehors des horaires dévolus à la discipline? Forte de son expérience d'inspecteur général, ayant observé les pratiques à travers l'ensemble du territoire français, Madame Klein nous livre ses réflexions à ce propos.
Je dirais tout d'abord qu'une double nécessité a fait loi pour les professeurs de langues et cultures de l'Antiquité ces dernières années. Dispenser un enseignement efficace à des groupes de collégiens ou de lycéens, aux profils très différents, de classes et de niveaux très hétérogènes, vous le savez, grands débutants et confirmés. D'autre part, redonner à cet enseignement l'attractivité qu'il avait perdue. Beaucoup de professeurs se sont ainsi mis à enseigner autrement le latin et le grec. Et ces disciplines suscitent l'intérêt parce qu'elles sont porteuses de projets qui réunissent les équipes pédagogiques et parce qu'elles proposent un apprentissage d'investigation développant ainsi des compétences d'autonomie et de méthodologie. Dans l'extrême diversité des projets innovants mis en œuvre, je citerai, pour les avoir vus, les projets qui concernent la sensibilisation aux langues anciennes des élèves de la classe de 6e. Des expériences ont été conduites dans l'Académie de Toulouse, dans votre Académie de Tours, je crois également. En 6e, en effet, on peut s'attacher à faire observer, et l'article 34 de la précédente loi d'orientation le permettait, des systèmes linguistiques, verbaux, morphologiques, lexicaux, des deux langues, latine et française. Par une mise en perspective des traits essentiels des langues de l'Antiquité avec le français, grammaire, syntaxe, lexique, par une observation réfléchie des deux langues, par des démarches comparatives et d'intercompréhension. Quant au programme des textes fondateurs en littérature française, ainsi que le programme d'histoire, il se prête particulièrement bien à intéresser les élèves de 6e aux langues et cultures de l'Antiquité. Mais c'est un autre aspect que j'évoquerai ici, celui du voyage scolaire, qui peut être un organe décisif de la vitalité des langues et cultures de l'Antiquité, en dehors des structures institutionnelles, puisque, vous le savez, rien n'oblige à faire un voyage avec ses élèves. Et pourtant, le voyage scolaire à Rome, moins souvent en Grèce pour des raisons de coût, mais aussi vers de riches sites en France même, est un puissant stimulant des langues et cultures de l'Antiquité et de la vie culturelle de l'établissement. Il joue un rôle majeur, celui qu'il a joué d'ailleurs durant des siècles pour les voyageurs privilégiés qui avaient étudié le latin ou le grec. Il faut oser, en effet, marquer la continuité avec le voyage cultivé, voire savant, à travers les âges. À des élèves de ZEP, de collèges ruraux, nombreux, on l'oublie, est alors donné de vivre cette expérience intellectuelle et culturelle décisive qu'ils n'auraient pas eue en dehors du cadre scolaire. C'est un facteur certain d'attrait pour l'option, un facteur de motivation important par sa préparation, c'en est un aussi de persévérance. Il doit avoir des suites immédiates et à terme qu'il faut évaluer. Le voyage scolaire à Rome ou en Provence, à Pompéi ou à Delphes, doit intégrer la mise en perspective constante du passé avec le présent même du site, de la ville, du pays. Quelles sont les traces vivantes? Il y a là un véritable enjeu. Comment, en effet, mettre au cœur des langues et cultures de l'Antiquité, au collège en particulier, l'exploration du patrimoine antique, médiéval et marqué par l'Antiquité? D'abord au niveau local, au sens large, et dans ses différents aspects. Mais le voyage scolaire n'est lui-même que l'anticipation des voyages que l'élève a de plus en plus de chances, avec de plus en plus de facilité, d'accomplir adulte désormais. Si l'on veut refonder en effet les langues et cultures de l'Antiquité sur des bases qui ne les marginalisent pas dans la vie contemporaine, c'est là une voie à la fois indiscutable et attrayante. Les cours de langues et cultures de l'Antiquité doivent se concevoir et s'afficher comme une formation du voyageur futur. On le distingue du touriste, à la rencontre du latin et du grec dans l'espace public. Car c'est là tout simplement qu'il a le plus de chances de les rencontrer. De New York à Berlin, de Saint-Pétersbourg à Madrid, de Lyon à Boston, dans les musées, dans les salles et parcs des châteaux, les figures d'Europe, de Lucrèce, Cléopâtre, Danée, Alexandre, Apollon, Ulysse, Didon rattraperont en effet le voyageur, comme du latin et du grec le rattraperont sur toutes sortes d'inscriptions dans ce même espace public. Et que l'on ne dise pas, là encore, que c'est une façon de brader les langues anciennes. Dans cette condition voyageuse, l'étude des textes, en effet, donc l'apprentissage de la langue soutenu par l'histoire des arts, trouvera une puissante motivation dont il serait vraiment désastreux de se priver. À cet égard, latin et grec ont le statut, vous le savez, de langues internationales de culture. Les programmes eux-mêmes doivent se donner comme des itinéraires dans l'espace et dans le temps.
Les souris et nous.